Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle version de Elles ont osé, proposée par Les Échos. Désormais, ce sera une seule invitée et nous accueillerons Yves Villaginès, journaliste des Échos, pour brosser le portrait d'une femme inspirante choisie par notre invitée. Elles ont osé et cela a tout changé, pour elle et autour d'elle. Chaque mois, dans ce podcast, notre invitée partage ses petits pas, les moments clés de son chemin pour aller toujours plus loin, pour être à sa juste place, guidée par son envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous, je suis Marie-Éloi, présidente de Femmes des Territoires, pour créer son entreprise Bouge ta boîte, réseau business féminin, et Bouge ton groupe, pour accélérer l'égalité professionnelle dans les entreprises et les administrations. Si comme moi, ces échanges vous donnent des ailes, je vous invite à vous abonner et à partager le podcast sur les réseaux pour inspirer le plus grand nombre. Aujourd'hui, pour cette nouvelle version, je suis très heureuse de recevoir Anne-Cécile Mailfer, la présidente et fondatrice de la Fondation des Femmes, fondation qui apporte un soutien financier, matériel et juridique aux associations qui œuvrent pour les droits des femmes. Petit warning, nous évoquerons donc des sujets sensibles sur les violences faites aux femmes. Au total, ce sont plus de 600 projets qui ont été financés et 7 millions d'euros levés pour lutter notamment contre les violences faites aux femmes. Bonjour Anne-Cécile.
Bonjour.
Alors vous avez grandi dans un petit village près de Nancy, dans une famille de profs. Et très tôt, vous avez compris que quand on est fille, ben, les choses peuvent être différentes, tabous, qu'on préfère qu'on les taise, voire qu'on se taise. Vous aviez 13 ans. Est-ce que vous pouvez nous partager ce moment ?
Oui, je pense que j'étais en quatrième et il y avait un cours d'éducation à la sexualité, qui était plutôt un cours d'éducation à la reproduction d'ailleurs que vraiment à la sexualité. Hein. Et à un moment donné, je pose la question de la masturbation féminine. Là, ça a été le début de plusieurs mois de harcèlement très difficile et très douloureux, puisque à partir du moment où on est une fille, on aborde ce genre de sujet, on est vite montré du doigt. Et j'ai compris deux choses de cet épisode qui a été difficile. En plus, moi, j'étais un peu têtue. Je pensais que j'avais effectivement raison de parler de ça et qu'il n'y avait pas de raison que je ne puisse pas en parler, puisque les garçons, eux, parlaient bien de masturbation entre eux en roulant un peu des mécaniques. Et je ne voyais pas donc le problème, en fait, à ce que nous, les filles, on ne puisse pas aborder ce sujet et poser les questions qu'on avait envie de poser. Et ce que j'ai compris, c'est que, déjà, qu'il y avait des inégalités entre les filles et les garçons, que ce n'était pas pareil, en fait. On ne pouvait pas parler des mêmes choses. Et qu'en plus, la sexualité était au cœur de ça. La sexualité, ce n'était pas anodin. C'était quelque chose qui déclenchait quelque chose de fort. Et la deuxième chose, c'est que j'ai été toute seule, en fait, à poser ces questions. Et ensuite, j'étais très isolée, parce que même les filles, elles ne pouvaient plus. Vous savez, quand vous êtes harcelée, en fait, vous devenez contagieuse, en quelque sorte. Et du coup, je me suis retrouvée vraiment toute seule. Puis, à ce moment-là, je me suis dit, OK, la prochaine fois que je veux me battre pour quelque chose, je vais le faire en bande, parce qu'on est quand même plus forte quand on est ensemble.
En sororité.
En sororité, oui.
Vous avez dû quitter le collège, même, à la suite de cette
histoire. Oui, j'ai changé de collège, oui.
Tellement c'était violent. Vous faites ensuite votre scolarité, un bac S, puis deux masters obtenus avec mention, l'un en études latino-américaines à l'université de Salamanque en Espagne et l'autre en management en innovation sociale à Sciences Po Lille. Vous entamez ensuite un parcours dans une entreprise agroalimentaire, puis au sein d'une ONG sur les énergies renouvelables que vous développez en France. Et ensuite, vous vous retrouvez sur le chemin des droits des femmes en vous engageant pour l'association LENI, qui soutient les personnes en situation de prostitution. Comment ça s'est fait ? Quel a été le déclic pour vous engager ?
J'ai été en fait tout au long de ma scolarité, dès qu'il y avait une injustice, j'avais envie d'y faire face, de la dénoncer. Dès qu'il y avait un problème, j'avais envie d'y apporter des solutions. À Sciences Po, par exemple, j'étais élue déléguée des élèves et on a essayé de faire en sorte qu'il y ait une plus grande démocratisation du concours d'entrée. Voilà, donc je ne peux pas faire autrement que d'agir avec du sens et pour une cause en fait.
Donc ça, c'était en vous ?
Ça, c'était en moi
et
déjà.
Comment on passe le cap ?
Et pourquoi la cause des femmes ? C'est vrai qu'en fait, tout au long de ma vie, il y a eu plusieurs moments où il y a eu, comme pour toutes les femmes, des moments de violence, d'agression, et en particulier au Nicaragua, donc pour mon ONG Blue Energy. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu complètement évident, en fait, que la cause des femmes est devenue quelque chose. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi vais-je chercher un sens à ma vie à l'autre bout de la planète alors qu'en fait elle est dans mes tripes, elle est dans mes entrailles, et juste parce que je suis une femme, en fait, je n'ai pas la même destinée et je vais potentiellement être amenée à subir des choses. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mon énergie, voilà, j'ai fait des bonnes études, j'ai de l'énergie, je sais parler, je sais me débrouiller. Donc du coup, il faut que je mobilise tout ça au service de cette cause-là, de moi et des autres femmes, pour qu'on n'ait plus jamais à vivre des agressions, des violences.
Donc, vous vous engagez au NI, vous menez de front cet engagement bénévole, puis... également en tant que présidente et porte-parole de Oser le féminisme, qui est une association militante, plus votre travail en tant que directrice du développement du mouvement Impact France.
Oui, mouvement des entrepreneurs sociaux à l'époque.
Un rythme effréné.
Oui, c'est ça. En fait, j'étais à ce moment-là, j'étais dans des espèces de volonté de consacrer l'intégralité de ma vie. Et donc, du coup, j'avais mon travail. Il fallait bien que je gagne ma vie. Alors, c'était un travail qui était très intéressant, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, dès que j'avais une minute, il fallait qu'elle soit consacrée aux droits des femmes. Donc, je me levais plus tôt le matin pour écouter la radio, savoir s'il fallait faire un communiqué de presse. Entre midi et deux, j'appelais pour soutenir, parce qu'au sein du mouvement d'Uni, j'aidais des personnes en situation de prostitution. Donc, souvent, je devais appeler le 115. Et le 115, en fait, faut pour un hébergement d'urgence. Le 115, c'est un numéro.
Le SAMU social.
SAMU social. Donc, du coup, j'étais accrochée au téléphone. Après, à la pause clope, j'étais en train de répondre à des journalistes. Puis après, de faire des réunions le soir, je rentrais chez moi à minuit, je repartais à 6 heures du mat. Bref, j'étais dans une surexploitation de mon temps de vie. J'avais pas une seule minute pour, d'ailleurs, désolée pour mes copines qui m'écoutent, j'avais pas beaucoup de temps pour mes amis ou pour ma famille. J'étais complètement dédiée à ça, à cette cause. Et c'est vrai qu'avec le travail en plus, c'était devenu difficile physiquement à tenir sur le long terme. Et puis, autre moment un peu clé, on va dire, en 2015, en fait, j'ai été en plus de ça harcelée par des médecins qui n'étaient pas contents parce que j'avais dénoncé une fresque à caractère pornographique qui était sur les murs d'un CHU d'un hôpital.
Alors, j'ai vu cette fresque absolument terrible, hyper sexiste, hyper violente.
Hyper violente,
et à cette époque-là, vous preniez très souvent la parole, puisque vous étiez porte-parole de Oser le féminisme et présidente, notamment sur les plateaux télévisés. Vous avez une éloquence qui est très forte et donc vous êtes insurgée, enfin, vous avez dénoncé cette fresque, s'en est suivi énormément de cyberharcèlement, c'est ça?
Oui, voilà. Alors, pas que cyber, d'ailleurs, c'est ça qui fait peur aussi. Hein. En fait, je dénonce cette fresque pornographique qui représente en fait la ministre de la Santé sous la forme de Wonder Woman multipénétrée, donc un viol collectif par plusieurs super-héros. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'absolument insupportable. En plus, médecins, salles de garde, hôpital, des endroits où le personnel médical est quand même censé aussi recevoir, pas dans ces endroits, mais quand même, le personnel médical est censé recevoir des femmes, y compris des femmes qui ont subi des violences sexuelles. Donc, c'était absolument insupportable, c'est injustifiable. Sauf que, en réalité, des médecins, à l'époque, trouvaient ça tout à fait convenable, parce que c'est la culture carabin, ça s'appelle comme ça. L'idée que les médecins ont besoin d'endroits de défouloir, sachant que le défouloir, la définition de défouloir, pour eux, à ces moments-là, c'était le viol d'une femme. Donc moi, ça me plaisait pas du tout. Et au nom de mon association, on a effectivement dénoncé ça. Et du coup, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé mon numéro de portable, ils l'ont publié sur des blogs, sur les réseaux sociaux. Il y a eu des photomontages de moi, nue, ligotée, frappée, bref. Et y compris donc des messages, et mon téléphone pendant 2 jours sonnait toutes les 5 minutes avec des menaces. Et du coup, ces médecins-là laissaient des messages sur ma boîte vocale. Donc on voit bien le sentiment d'impunité totale en disant leur nom, la ville, leur profession. Donc, il y avait je ne sais plus qui était psychiatre à Nice, qui me disait qu'en fait, il fallait que je revienne sur mes propos, sinon ils n'allaient pas arrêter de me harceler et que ça n'arrêterait pas tant que je ne reviendrai pas sur mes propos. D'autres commentaires qui disaient, si celle-là, elle se pointe aux urgences, Donc, bref, donc des choses qui sont complètement... incommensurable, quoi, complètement, complètement folle. Et ça m'a atteint, évidemment, ça m'a atteint, en fait. Même si je suis militante, même si j'ai l'habitude qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, le fait qu'ils aillent jusqu'à, ce côté très intrusif dans ma vie et que ces menaces-là, c'est vrai que ça m'a vraiment affectée. J'étais très, très, très fatiguée par mon militantisme et ma double vie de professionnelle et de militante. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je pense qu'il faut que je fasse une petite pause, là, je vais pas y arriver, sinon.
C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, voilà. En fait, il y avait trop, quoi, c'était un trop-plein. Et une pause, c'est souvent salvateur. Hein. On a l'impression qu'on ne peut pas s'autoriser à faire des pauses et c'est souvent mal vu par le regard extérieur. Et pourtant, c'est salvateur, c'est comme la terre en jachère, c'est souvent là d'où naissent les meilleures idées.
Exactement.
Parce que pendant cette pause, vous retrouvez de l'énergie et en plus, vous vient l'idée de créer la Fondation des femmes, c'est ça ?
Ouais, exactement. Donc je quitte la présidence et la porte-parole d'Oser le féminisme et je me laisse quelques mois. Et j'avais cette idée d'une fondation pour les droits des femmes parce que au sein d'Oser le féminisme, je voyais bien, parce que je travaillais tous les jours avec des tas d'associations, qu'elles étaient petites, qu'elles n'étaient pas nombreuses, que dès qu'elles avaient une idée, elles se disaient « Ah bah oui, mais on ne peut pas, on n'a pas l'argent pour faire ça ». Je voyais que des projets étaient refusés parce qu'il n'y avait pas les moyens. Et non seulement il n'y avait pas les moyens, mais ils n'avaient aucune idée du début, du commencement, de où trouver les moyens.
Et avec souvent, tout le monde faisait tout avec des bouts de ficelle.
Hein. Exactement. Ouais. Ça, c'est les femmes. Hein. Donc, beaucoup de bénévolat. Mais t'inquiète pas, je fais à ma sauce. Je prendrai 3 Tupperware, ça va le faire. Et de fait, ça le fait. C'est-à-dire que nous, les femmes, on tient le monde à bout de bras depuis toujours. Et on y arrive. Mais c'est fatigant, c'est usant. Et puis, si on veut vraiment changer profondément les choses et profondément la société, on ne peut pas le faire juste avec 3 bouts de ficelle. C'était en tout cas ma conviction. Et donc, je me suis dit, au lieu de dire... ce serait bien qu'il y ait une fondation des femmes. Je me suis dit, écoute, bouge-toi, allez. Et puis, moi, ça me permettait aussi de reculer un tout petit peu par rapport au terrain, parce que quand on est à la tête d'une fondation, on soutient les associations, on n'est pas vraiment en première ligne. Et donc, du coup, ça me permettait de continuer à vivre ma passion, mon engagement, sans pour autant être complètement en prise avec le terrain, quoi, d'avoir un petit recul. Et j'ai également arrêté de travailler ailleurs. Je me suis dit, il faut que je regarde la réalité en face, qui me donne envie de me lever le matin et me coucher le soir, c'est la cause des femmes. Donc, je vais arrêter d'essayer de multiplier les trucs, de gagner ma vie d'un côté et de militer le soir. Ça ne marche plus. Donc, du coup, je me suis dit, j'y vais, je vais essayer, je vais voir ce que ça va donner. Et puis, je vais essayer de lancer cette fondation.
Mais comment on lance une fondation ? Parce que c'est pas rien, c'est pas lancer une association, c'est vraiment quelque chose de conséquent. Comment on lance ça ? Comment vous êtes dit ? Alors, j'imagine que c'est une longue maturation, mais comment vous vous êtes dit, allez, j'y vais, c'est ça ?
En fait, c'est une personne en fait, qui a débloqué. Moi, quand j'ai des idées, ce que j'aime bien, c'est faire un peu le ping-pong avec les gens. Donc, dire, au fait, j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses ? Et puis, voir comment ça répond. Et c'est toujours très instructif de voir comment les gens répondent à ça. Donc, il y avait des gens qui disaient que c'était une idée complètement nulle, ça ne marcherait jamais, parce que personne ne voudrait jamais donner de l'argent contre les violences faites aux femmes, que si ça n'avait jamais existé, c'est parce que ça ne pouvait pas exister. Et puis, il y a d'autres personnes qui étaient beaucoup plus favorables à cette idée, en particulier une qui s'appelle Léa Thomasin.
Qui est venue dans le podcast.
Qui est déjà venue dans votre podcast, qui est merveilleuse, qui a monté un site qui s'appelle Hello Asso, qui permet à des tas d'associations en France de collecter des fonds pour leur propre association. Et donc, je l'ai appelée, je la connaissais de loin. Et je lui ai dit, j'ai cette idée, mais j'ai besoin d'un peu de data, d'un peu de données, en fait, sur le marché, entre guillemets. C'est quoi les dons en France pour les droits des femmes aujourd'hui ? Est-ce qu'il y aurait matière à... Je lui ai dit, c'est quoi ? Il n'y a même pas la catégorie dans mon site. C'est-à-dire, je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas, il n'y a pas marqué, il n'y a pas femme, en fait. Il y a animaux, il y a sport, il y a tout ce que tu veux, mais il n'y a pas femme.
Je crois qu'aujourd'hui, c'est 1,6% des dons privés, publics, tout confondus, qui sont attribués à la cause égalité femmes-hommes, c'est rien.
Oui, on reste sur des montants complètement, absolument ridicules, ça c'est clair. Et donc Léa, ce qu'elle me dit à ce moment-là, elle me dit, écoute, ton idée c'est une bonne idée, vas-y, je te suivrai, je vais t'aider. Et donc du coup, j'étais un peu obligée de le faire après. Et voilà comment j'ai lancé la Fondation des femmes.
Ça, c'est la super technique. Hein. En parler autour de soi quand on a un projet, parce qu'après, on est fichu. Tout le monde revient vers nous en disant « Et alors,
t'en es où ?»
Et t'es fichu. Moi, j'utilise beaucoup cette technique aussi d'en parler autour de moi avant même que ça soit fait.
Mais de cet exemple-là, ce que j'aime aussi, c'est que c'est le fait qu'on se rappelle que même s'il y a des personnes qui sont identifiées comme ayant fondé ou comme étant un peu leader, entre guillemets, ou locomotive, en réalité, ce qui fait un train, c'est les wagons derrière. C'est en fait parce qu'elle a été deuxième, je suis en tête du train. Donc, en fait, les leaders ne sont leaders que parce que d'autres personnes ont décidé de les suivre et ont dit aux autres, regardez, vous pouvez suivre cette personne. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et l'aventure de la Fondation des femmes, c'est une aventure très collective, même si j'en suis à la tête.
On décidait de soutenir et chacun fait sa part, en fait. Je voudrais juste donner quelques chiffres sur les violences faites aux femmes aujourd'hui, sous votre contrôle, évidemment. Mm-hmm. 137 femmes tuées en 2022 par leur conjoint ou ex-compagnon.
Par leur conjoint ou ex-compagnon, non, on est un petit peu moins, mais bon, c'est, de toute façon, c'est trop.
Plus de 200 000 victimes de violences conjugales chaque année.
Ouais.
Une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle.
Ouais, c'est même plus, je pense.
Dans 91% des cas, les femmes connaissent leur agresseur. Mm. 94 000 victimes de viols ou tentatives chaque année. Mm. Et seulement 1% des dossiers de viol qui se concluent par une condamnation.
Ouais, 1% des cas de viol, ouais. Mm. Merci de rappeler ces chiffres, parce qu'en fait, on rappelle quand même ce sur quoi on travaille tous les jours. C'est quelque chose de déjà d'abject, parce qu'on est sur des atteintes aux personnes qui sont extrêmement graves. On est sur des meurtres, on est sur de la torture, on est sur du viol. Donc, je pense que c'est ce qui peut se passer de pire sur le corps d'une personne. Et aussi, et c'est un peu là notre drame, on va dire, c'est massif. En fait, il y a énormément de femmes à qui ça arrive. Et c'est parce que c'est massif qu'on a autant de mal à réussir à l'affronter, quoi, à y mettre un terme.
Et à se dire, on change tout, on fait autrement, on met des moyens dessus. Vous êtes devenue, du coup, la première structure française de collecte grand public sur ces sujets-là.
Oui.
Les débuts sont laborieux, Anne-Cécile.
Oui.
Parce que vous pouvez nous donner... Parce que ça, tout commence toujours par un petit pas.
Ouais.
Et vous aussi, la fondation, parce que vous avez créé la fondation,
ouais.
Et les sous ne sont pas arrivés comme
non.
ça. Il a fallu aller les chercher, comme pour tout.
Oui, oui, et en plus... Moi, j'ai pas de fortune personnelle, je n'ai aucune fortune personnelle, je ne connais aucune grande fortune, je ne connais aucun PDG. Donc du coup, je dis voilà, on veut faire une fondation à récolter des millions d'euros. À l'époque, j'avais trentaine quoi là, et je suis une femme. Du coup, il y a certaines personnes qui m'ont regardée avec un petit sourire de elle est bien mignonne quoi.
Je connais bien.
comment va-t-elle voilà. Mais du coup, maintenant ils me regardent autrement et ça j'adore. Mais bon, donc c'est sûr que c'était pas facile et vraiment les premiers mois, j'ai galéré quoi. Dans les réponses qu'on m'a faites lorsque j'allais voir des personnes ou des entreprises pour solliciter leur soutien, beaucoup c'était revenez me voir quand vous l'aurez lancé ou revenez me voir quand ça marchera quoi en gros. Hein. Et ça, je crois que je suis pas la seule à avoir eu ce genre de réponse quand on lance une initiative. Souvent, comme je le disais tout à l'heure, en fait, les courageux, c'est pas ceux qui lancent, c'est ceux qui suivent, c'est ceux qui sont les premiers à dire cette initiative est intéressante.
J'y crois.
Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'une entreprise en particulier, c'est le groupe Chèque Déjeuner. Je me souviens, je suis allée les voir et c'était, j'avais déjà essuyé des dizaines de refus. Et je vais les voir, ils sont à Gennevilliers. Moi, j'habite à Paris, donc du coup, ça m'a. Enfin voilà, il y avait tout un. Voilà,
c'était long.
Transport,
laborieux.
Métro, bus. C'était en novembre, je crois. Il pleuvait des cordes. Je suis arrivée, j'étais trempée et j'ai mis une heure et demie de transport. Et j'arrive et je me dis bon là, franchement, je me souviens, j'étais à la porte. Je me dis ça. Enfin, si ceux-là, ils me disent non. J'arrête quoi. Et en fait, effectivement, ils m'ont dit t'es venu jusque-là, du coup, on va être sympa. Et puis, ils m'ont dit ouais, que c'était une bonne idée et qu'ils allaient. Et donc, ils m'ont fait un chèque de. Enfin, ils ont promis 5 000 euros à la Fondation des femmes à l'époque. Et à l'époque, c'était beaucoup d'argent, 5 000 euros. Hein. Donc, on commence, les petits ruisseaux font des grandes rivières. Et on a commencé comme ça. Et leur soutien m'a permis, en fait, de prouver à d'autres que ça valait le coup de croire dans cette idée que oui, on pouvait lever des fonds. Contre les violences faites aux femmes et pour les droits des femmes.
Et tout s'est accéléré au moment de MeToo,
oui.
Parce que vous rencontrez Julie Gayet, l'actrice Julie Gayet.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous partager comment vous avez réussi à la contacter et pourquoi ?
Il faut s'imaginer que quand je lance la Fondation des femmes, fin 2015, début 2016, ce sujet n'est pas encore à l'agenda comme il l'est aujourd'hui. C'est encore un sujet difficile et c'est pour ça d'ailleurs que certaines entreprises ont eu beaucoup de mal au début à comprendre l'intérêt de se positionner sur ce sujet-là. Fin 2017 arrive l'affaire Weinstein et là, il y a une espèce de boule de neige médiatique absolument incroyable. Et là, tout d'un coup, les gens ouvrent les yeux sur les violences sexuelles. Donc, ce sur quoi moi, je me battais depuis plus de 10 ans, tout d'un coup, les gens, ils ouvrent les yeux, ils se réveillent. C'était assez formidable à voir, c'est fabuleux. Et donc, tout d'un coup, les gens se disent, oh, il faut faire quelque chose. Et en particulier, des actrices françaises, à ce moment-là, les journalistes les interrogent. Et vous, dans le cinéma français, et qu'allez-vous faire ? Et là, Julie Gayet explique que, elle, ce qui l'interpelle beaucoup, c'est les femmes qui ont moins de revenus et moins de visibilité que les actrices et qui, du coup, se trouvent dans la galère. Si elles dénoncent des violences, elles font comment ? Si elles sont caissières, si elles sont femmes de ménage ? Et elle dit ce qu'il faudrait, c'est collecter des fonds pour soutenir les associations qui les aident. Du coup, moi, j'entends ça à la télé, je me dis « Ok, alors elle, il faut absolument que je lui parle parce qu'on existe, on est là et on a vraiment besoin de soutien. Je ne sais plus comment j'arrive à trouver son numéro, mais j'appelle la terre entière pour réussir à avoir son numéro. » Et là, très gentille. Donc déjà, elle me répond. Et je lui explique la Fondation des femmes. Je lui explique qu'on s'est créé justement pour ça, pour faire que les associations aient les moyens de répondre aux demandes des femmes et aux besoins des femmes victimes de violences. Et là, elle réfléchit, je pense, 2 secondes et elle dit « Mais oui, faut qu'on le fasse ensemble. Ça n'a pas de sens de le faire toute seule dans son coin. Donc, je vais t'aider. » Et elle a rameuté toute sa communauté. Elle a fait vraiment, je me souviens, elle sortit son téléphone. C'était tous les numéros de la terre entière qu'elle connaissait, de toutes les actrices de la terre entière. Et c'était « Venez, on va faire un truc pour soutenir la Fondation des femmes. C'est très important. »
Aujourd'hui, je le rappelle, ce sont plus de 7 millions d'euros levés, 600 projets aidés, énormément d'actions aussi pour y parvenir. Un train de l'égalité, des concours d'éloquence, des relais pour récolter des fonds. Anne-Cécile, énormément de monde aussi pour vous soutenir dans le monde de l'audiovisuel, du cinéma, mais aussi économique. Et c'est un de ces soutiens que vous avez souhaité mettre en avant. Meka Brunel est la femme inspirante que vous avez choisie.
Et dans quelques instants, Yves Villaginès, journaliste aux Échos, nous rejoint pour brosser son portrait.
Bonjour Marie, bonjour Anne-Cécile Maillefer. Donc pour la préparation de ce podcast, vous avez dénoncé Méca Brunel. Je vous en remercie parce que cela m'a donné l'occasion d'avoir une conversation très très enrichissante avec elle. Méca Brunel, pour ceux qui ne la connaissent pas, a été l'une des rares femmes dirigeantes d'un groupe important dans le bâtiment. Elle a été à la tête d'un bailleur privé immobilier. Alors son histoire personnelle est celle de l'exil, celle d'un déracinement avec son pays d'origine, l'Iran. Méca, c'est en réalité un diminutif, celui du prénom Marconnet. Alors, toutes mes excuses pour ma prononciation approximative du persan. Marconnet, pardon, je suis en train de récidiver. Marconnet, cela veut dire grand désir. C'est un prénom ancien que la mère de Méca est allée chercher dans un livre Zoroastre. Jeune fille, Méca est scolarisée au lycée français de Téhéran dans les années 1970. Elle est arrivée en France pour poursuivre ses études d'ingénieur. Et elle y restera, après la révolution islamiste. Alors quand on s'appelle Méca, devenir ingénieur, je crois que c'est un peu de la prédestination. Méca est devenue ingénieure parce qu'elle n'avait, dit-elle, aucun talent, à part celui peut-être de résoudre des problèmes. Or, résoudre des problèmes, cela revient à trouver des solutions. Et ça, quand même, il faut le dire, c'est un super pouvoir. Un super pouvoir qui va lui être utile sur les chantiers et dans sa carrière aussi de manager. Parce que le management, c'est l'observation des problématiques et donc des solutions à trouver, et celui des gens. Le management, c'est assembler des équipes avec de multiples talents, un peu comme au rugby, hein, en période de Coupe du Monde. Plus jeune, Méca s'est beaucoup intéressée au football, elle y jouait enfant avec son frère. Mais aujourd'hui, elle le dit elle-même, hein, elle préfère le ballon ovale et de loin. Un sport, dit-elle, qui est plus représentatif de ce qu'est ou de ce que pourrait être une organisation humaine bien huilée. Des gens de nature et de compétences différentes qui doivent coopérer parce que sans le collectif, l'équipe n'a aucune chance de l'emporter. Je fais une petite incise à propos de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Vous en avez entendu parler. Certains l'ont jugée caricaturale, brouillon, pas très flatteuse pour la France. Eh bien, Méca, elle l'a beaucoup apprécié. Elle qui se dit française d'adoption, elle a apprécié cette autodérision et la représentation d'une France populaire qu'elle aime tant. Populaire, hein, mais pas populiste. Elle est très sensible à l'iniquité, un mot qu'elle préfère à injustice, parce que, dit-elle, l'iniquité se niche dans les détails de la vie quotidienne. Un exemple. Pendant le confinement de 2020, liée à la crise sanitaire du Covid, Méca dirigeait alors un bailleur privé, une société qui gère des logements. Et dans cette période, son entreprise organisait des événements sur intranet. Alors, on y partageait des photos, certains de leurs vues magnifiques depuis leur maison de campagne. Alors que d'autres salariés de son groupe dans l'entreprise, en particulier les gardiens d'immeubles, eux, ils passaient leur confinement dans leur logement de fonction. Et cette inégalité, cette iniquité de traitement, Méca, ça l'avait mis mal à l'aise, alors on a arrêté le partage des photos. Comme les inégalités envers les femmes qui la mettent mal à l'aise. Pour Méca, il faut enlever la chape qui repose sur les femmes et qui fait que les sociétés les considèrent comme une minorité. Une minorité, parlons-en. Les femmes représentent 52% de l'humanité, c'est une majorité plutôt, non ? Un déni de démocratie. Pour elle, les hommes et les femmes, ce sont les deux ailes de l'humanité. C'est beau ça, non, comme expression, les deux ailes de l'humanité. Eh ben, n'oubliez pas que les Persans, les Perses, ont inventé la poésie. Alors pour conclure, je vous livre ce morceau de poésie persane, l'un des préférés de Méca Brunel, un quatrain du grand poète persan du XIIe siècle, Omar Khayyam. Entre la foi et l'incrédulité, un souffle. Entre la certitude et le doute, un souffle. Sois joyeux dans ce souffle présent où tu vis, car la vie elle-même est dans le souffle qui passe.
Merci Yves.
Merci, j'adore la poésie.
Anne-Cécile, vous saviez tout ça de Méca Brunel, qui est plus connue pour son
côté businesswoman.
Pour son côté businesswoman, ouais, exactement.
Ouais, alors, mais d'ailleurs, c'est pas dit là, mais je me permets du coup de rajouter des choses de notre expérience. Méca et moi, en fait, pendant le confinement, elle a fait retirer des photos, mais surtout ce qu'elle a fait pendant le confinement, c'est que moi, je l'ai appelée à ce moment-là, j'ai dit voilà, Méca, on a un problème parce que des centres d'hébergement sont fermés parce qu'ils sont confinés. Du coup, lorsqu'une femme est victime de violence, comment elle fait, où est-ce qu'elle va, comme elle ne peut pas aller chez ses proches, puisqu'on n'a pas le droit.
Elle est obligée de rester. reste.
Elle va où ? On a besoin d'endroits, de lieux qui réouvrent, qui ouvrent. Et en fait, dans son groupe immobilier, ils avaient des résidences universitaires. Et donc, en particulier, on en a réouvert une à Nanterre et on a pu héberger plus de 150 femmes et enfants pendant le confinement. Tout ça gracieusement, c'était, tout était entretenu, gardienné, etc. par le groupe de Meka à l'époque. C'était vraiment ses décisions. Et on a réitéré le 15 août 2021, lors de la prise de Kaboul par les talibans. Là, à nouveau, je l'appelle et je dis, voilà, là, on a un groupe de femmes féministes afghanes qui vient de s'échapper par le dernier avion. Elles arrivent ce soir, demain, on ne sait pas où les mettre. Et là, même chose, elle les a évidemment hébergées dans des résidences universitaires, complètement incognito, et absolument gracieusement pendant des mois, quoi. Donc, Meka, c'est quelqu'un de déterminé, avec des vraies valeurs, des vrais principes. C'est une femme très forte. J'adore les femmes fortes. Et c'est, enfin, les femmes en général, mais c'est vrai que les femmes fortes, je suis particulièrement admirative de leur courage et très, très, très généreuse. Et puis là, en ce moment, donc, elle ne dirige plus de groupe puisqu'elle est à la retraite, mais très, très, très active, comme vous pouvez vous l'imaginer. Il y en a en train de travailler ensemble à monter une foncière féministe.
Qu'est-ce que c'est une foncière féministe ?
L'idée, c'est d'acquérir des bâtiments qui permettront à des associations d'ouvrir des centres d'hébergement à bas coût. Voilà. Donc, c'est d'investir dans l'immobilier, mais à but social féministe.
Encore une fois, chacun, chacune fait sa part dans cette histoire. C'est un beau duo, en tout cas, que vous formez avec Meka. Mais il y en a beaucoup autour de vous qui font énormément de choses.
J'ai de la chance.
Bah, c'est pas de la chance. De tout ce que vous avez vécu justement, Anne-Cécile, de tous les petits ou grands pas, de toutes les montagnes gravies, que retenez-vous, que vous pouvez nous partager ? Quels apprentissages qui sont devenus des forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour continuer à avancer comme un socle sur lequel vous pouvez compter ? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous de ce que vous avez appris ?
Alors, j'ai une certitude, on va dire, j'en ai pas beaucoup des certitudes, puisque plus je vieillis, moins j'en ai. Mais j'en ai une qui est vraiment la force de la volonté. C'est-à-dire, c'est absolument incroyable ce qui se passe quand on décide quelque chose, quand on décide, quand on a la volonté de faire et qu'on affirme cette volonté. En fait, il y a, je sais pas si c'est magique ou quoi, mais les planètes s'alignent, en fait. Souvent, on a l'impression qu'il faut avoir vraiment fait le tour de la question et être sûr de tout avant de se lancer. En réalité, les choses se passent aussi quand on lance. Le fait de dire qu'on veut lancer quelque chose et d'y aller, ça fait converger aussi d'autres énergies, d'autres volontés. Il y a vraiment... La volonté, c'est quelque chose qui est assez magique, la force de la volonté. Moi, c'est vrai que la Fondation des Femmes, c'est vraiment ça. C'est ma volonté, bien sûr, mais les volontés aussi d'autres personnes avec moi. Et ça nous a donné une force. À nouveau, on n'avait rien, on n'avait pas d'argent, on avait juste une indignation, une envie, une passion, mais ça s'est aligné et ça entraîne beaucoup et ça entraîne les autres aussi. Donc la force de la volonté.
C'est vraiment ça en fait, c'est le chemin, il ne faut pas attendre qu'il soit tout tracé pour y aller, il faut juste commencer à marcher dessus, sur celui qu'on
imagine.
Et comme vous l'avez dit, il y a des aides qui arrivent typiquement Meka Brunel, mais comme vous l'avez dit, il y en a plein d'autres et ce n'est pas de la chance. C'est parce que vous avancez sur ce chemin et les autres ont envie aussi de vous rejoindre. Donc la force de la volonté, je suis totalement en phase avec.
Et puis se dire, par exemple, moi j'aime bien cet exercice-là et je l'ai fait à plusieurs reprises avec les équipes bénévoles ou salariées de la Fondation des Femmes. C'est quoi vos rêves ? Et en fait, quand on arrive à les formuler, quand on arrive à les écrire, quand on les a là devant nous, en fait, ils commencent déjà à être un peu réalité. Et puis après, il y a des choses qui se passent dans la vie où quelque part, en fait, nous, au tout début de la Fondation des Femmes, on avait plein de rêves à faire un train, enfin des trucs, ça nous paraissait délirant. Et puis en fait, on l'a fait, quoi. Et je pense que le fait de l'avoir posé aussi, de se dire, voilà, moi, je souhaiterais ça, j'ai cette ambition, j'aimerais vraiment qu'on réussisse à reverser des millions d'euros. Franchement, au début, on délirait, mais du coup, c'est quand même devenu un petit peu vrai. Et puis l'autre chose, c'est, moi, j'aime bien le contexte de sérendipité. Je ne sais pas si vous le connaissez, donc je vais reprendre la définition un peu exacte. C'est la capacité, l'aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. C'est-à-dire, en fait, on tombe par hasard sur quelque chose et en fait, il y a ce hasard. Et puis après, il y a l'intelligence qui fait qu'on se dit, en fait, de ce hasard, de cette circonstance dont je ne suis absolument pas à l'origine, je vais essayer d'en tirer quelque chose de bien ou d'en tirer un apprentissage. Donc, même si c'est quelque chose, un hasard, une découverte négative sur soi, sur les autres, sur son travail, ou une découverte positive, c'est vraiment se dire, qu'est-ce qu'on en retient ? Qu'est-ce qu'on en apprend ? Et en fait, les hasards de la vie nous amènent des tas de choses, en fait. Et à la Fondation des Femmes, c'est vraiment ça, depuis 7-8 ans. C'est une succession de rencontres, une succession de hasards, une succession de chemins qu'on a décidé de prendre. Je dis « on » parce que c'est vraiment souvent des décisions collectives, mais on en a appris des choses. Donc, ma seule certitude, c'est que il se passera des choses et qu'on s'en sortira. Voilà.
Mais c'est tellement vrai, la sérendipité, parce que quand on commence à marcher sur ce chemin, déjà, il y a des aides inattendues qui arrivent. Et le fait d'imaginer ce chemin...
Ouais, non, mais c'est ça. De tracer le chemin, ça fait, on fait converger des énergies, on fait converger des intelligences. Et puis, on amène à soi aussi, on attire. Ça, les gens aiment aussi vivre des aventures. Et du coup, quand on leur explique qu'on va faire telle aventure, mais en fait, ça... Voilà, c'est assez dingue. En tout cas, la sérendipité, c'est vraiment ce chose de se dire... Bah, c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, moi, j'ai moins de certitude qu'avant, dans le sens où je ne sais pas vraiment ce qui va se passer demain, je ne sais pas vraiment ce qui se passera dans un an, dans deux ans, mais je pense que globalement, même s'il y aura probablement... Il y en aura d'ailleurs, c'est pas probable, c'est sûr, il y aura des choses négatives qui vont se passer, il y aura des merdes, il y aura des choses qui ne marcheront pas. Mais en fait, je suis sûre qu'on aura l'intelligence de comprendre, d'apprendre, de rebondir. Moi, toute ma vie, à chaque fois que j'ai eu des trucs qui me sont arrivés, des fois, franchement, j'ai été vraiment mal, quoi. Il y a des moments où j'ai déprimé, il y a des moments où j'étais... Et en fait, j'ai quand même réussi à en tirer quelque chose, à en apprendre quelque chose. Et ce qui m'est arrivé personnellement, c'est la même chose que je vois aujourd'hui à la Fondation des Femmes. On a toujours l'occasion de, voilà, d'apprendre, de rebondir, de progresser et de découvrir des choses sur soi, sur les autres ou sur ce qu'on fait, quoi.
Et ça, la sérénité, c'est valable pour tout le monde, en fait. Mmh. On a toutes et tous des opportunités qui nous passent devant. Oui. Mais comme vous dites, c'est la capacité à les voir déjà, à les saisir et à en faire quelque chose.
C'est à lâcher prise aussi. À lâcher prise. En fait, il ne faut pas être effrayé que des choses qu'on n'a pas prévues arrivent. C'est la vie, en fait. C'est ce qui se passe partout dans la vie, tout le temps. Mais donc, on n'a pas le contrôle, en vrai, de notre destin. Par contre, on se dépatouille. Et l'humanité se dépatouille depuis toujours avec ce qui lui arrive. Et voilà, et c'est cette capacité à voir comment se dépatouiller avec ce qui nous arrive qui nous fait, je pense... et moi, j'espère que la Fondation aura encore de très belles années devant elle. Et on disait 7 millions d'euros, c'est beaucoup, 7 millions. Mais en vrai, quand on parle de 200 000 femmes victimes de violences conjugales par an, c'est rien du tout. Du coup, on veut collecter évidemment beaucoup plus d'argent à l'avenir et je pense que le chemin ne sera pas tout droit, ne sera pas tracé. Je ne sais même pas ce qui va se passer, probablement à nouveau beaucoup de choses positives ou négatives. Mais je sais qu'avec mon équipe, on réussira à faire en sorte de rebondir, d'apprendre et de progresser.
Oui, parce que comme vous dites, les moyens sont infimes. Hein. Même si c'est la grande cause du quinquennat, les moyens restent infimes sur l'égalité. Mmh. On sait ce qu'il faut faire, on sait le montant des moyens qu'il faudrait mettre. Vous avez vous-même demandé 1 milliard d'euros.
Voilà, alors sur d'ailleurs, on sujets. A fait une réestimation. On vient de sortir un rapport le 25 septembre qui montre d'ailleurs qu'on a réévalué en fait le montant que met l'État sur la table pour combattre les violences sexistes et sexuelles. Et on a aussi fait le calcul de combien il faudrait consacrer pour pouvoir répondre aux besoins des femmes victimes de violences. Et en fait, l'État aujourd'hui, ce qu'il met sur la table, c'est 170 millions d'euros. Donc, on pourrait dire c'est bien, mais en réalité, ce qu'il faut, c'est au minimum plus de 3 milliards d'euros pour faire face aux besoins des femmes et ne pas mettre l'argent. Je vais vous donner un exemple très, très concret. C'est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y aura dans la journée des femmes qui vont appeler les numéros d'urgence pour demander un hébergement en urgence parce qu'elles sont victimes chez elles. Et à 4 femmes sur 10 qui vont appeler aujourd'hui, on leur dira « Non, madame, on n'a rien, revenez demain ». Sauf qu'en fait, laisser une femme chez elle alors qu'elle a décidé de partir, c'est l'exposer à un danger imminent puisqu'elle est en situation de violence chez elle. Et c'est aussi potentiellement la faire retomber dans des cycles d'emprise qui fait qu'en fait, ça va être très difficile. Elle va attendre encore plusieurs mois avant de rappeler le numéro. Donc en tout cas, quand on dit qu'il n'y a pas assez de moyens, c'est des conséquences très concrètes sur la vie des femmes. Moi, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, il y a encore plus de 120 femmes qui ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Enfin, sur les... c'est pas forcément des coups d'ailleurs, parce qu'ils sont très imaginatifs dans la manière de tuer leur femme. Mais en tout cas, c'est... les féminicides, c'est les violences sexuelles, tout ça, c'est aussi une question d'argent. Et l'argent qu'on ne met pas sur la table, c'est des femmes qui en subissent les conséquences.
C'est bien sûr une question d'argent qui montre aussi la volonté politique. Aujourd'hui, le ministère de l'Égalité reste encore le plus petit budget de tout le gouvernement. Avant de passer aux questions du tac au tac, j'ai une question qui vous est posée par Sandrine de notre communauté d'entrepreneurs heureux. Je vous la laisse écouter.
Et si les faits de violence conjugale concernaient essentiellement les hommes, pensez-vous que les aides financières seraient différentes, voire plus conséquentes ?
Vous rigolez, Anne-Cécile.
Ouais, ouais. Mais j'ai un exemple très précis sur le fait que, effectivement, quand ça concerne les hommes. Alors, c'est une très bonne question à deux égards. Déjà, un, parce qu'elle me permet de rappeler qu'en fait, Si aujourd'hui les violences concernent massivement les femmes, c'est parce que nous vivons dans une société inégalitaire, que les femmes n'ont pas le pouvoir et qu'une manière d'exclure les femmes de pouvoir, c'est via les violences qui sont exercées contre elles. Donc en fait, en réalité, si demain, c'était les hommes qui étaient victimes de violences, ça voudrait dire qu'ils n'auraient pas le pouvoir. Donc en fait, la situation serait exactement similaire à celle d'aujourd'hui pour les femmes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que les violences sont la résultante d'une inégalité de pouvoir. Mais imaginons, nonobstant, imaginons quand même, la question est-ce qu'on met plus d'argent sur les problèmes des hommes, en gros, que les problèmes des femmes ? La réponse est oui, à plein d'égards. Il y a plus d'argent, par exemple, sur le Viagra que sur n'importe quelle pilule pour les femmes. Il y a plus d'argent sur toutes ces problématiques-là que sur la santé des hommes, par exemple, que la santé des femmes. C'est assez manifeste. Il y a des tas d'études et de rapports qui le montrent. Donc oui, le problème, c'est que comme on a aujourd'hui en situation de pouvoir une catégorie de la population qui est les hommes. Et en fait, c'est quelque part, c'est pas forcément mal intentionné, mais ils comprennent les problématiques au travers de leurs yeux. Donc du coup, eux, ils voient ce qui est important pour eux et ils voient pas ce qui est important pour les autres.
Bah, quand il y a que 15 à 20% de femmes en position de pouvoir dans tous les domaines, que ça soit économique, politique, justice, éducation, évidemment que notre voix en tant que femme ne compte pas.
Absolument, notre voix ne compte pas. Et c'est vrai que les décisions budgétaires, quand on les regarde, ça s'appelle au prisme du genre, c'est-à-dire quand on essaie de voir garçon-fille et de regarder et de mélanger, d'avoir ces yeux-là et cette attention-là quand on regarde le budget de la France, on voit bien qu'effectivement, et c'est d'ailleurs pour cette raison-là pour laquelle on demande un budget genré, c'est-à-dire on demande à ce qu'il y ait cette analyse qui soit faite, on va voir par exemple dans les villes le fait qu'on met plus d'argent sur les sports masculins pratiqués. Alors, pas des sports masculins, pardon, pratiqués majoritairement aujourd'hui par des hommes, parce qu'il n'y a pas de sport masculin. Voilà, donc en fait, on va construire des stades de foot avec l'argent public, l'argent de tout le monde, qui vont être en réalité massivement utilisés plutôt par des hommes. Et on ne va absolument pas, si je vous parle de sport, c'est qu'on va, la ville de Paris, par exemple, va plutôt mettre de l'argent sur des terrains de basket, des terrains de foot, ce genre de choses, enfin je dis la ville de Paris, n'importe quelle ville d'ailleurs, plutôt que dans des sports plutôt pratiqués par des filles,
ou
comme
mixte.
L'aérobic, les pilates, où en fait là c'est des cours privés. Donc en fait les femmes elles payent pour leurs cours de sport, quand les hommes se font payer, entre guillemets, par la collectivité, les espaces dans lesquels ils exercent du sport. Moi, je ne critique pas le fait qu'il y ait de l'argent public sur le sport, c'est très bien, mais idéalement, il faut regarder ça. Quand on regarde au prisme du genre, on se rend compte que, bah, tiens, c'est quand même bizarre que les pratiques sportives plutôt pratiquées par des hommes soient mieux financées que les pratiques sportives plutôt pratiquées par des femmes.
Et ça, c'est un exemple qui, effectivement, est valable dans à peu près tous les domaines. J'ai des questions pour vous auxquelles il faudra répondre au tac au tac. Est-ce que vous avez une discipline de vie ?
Oui, depuis peu. Je prends le vélo pour aller au travail et c'est une grosse discipline de vie. Donc du coup, j'ai renoué avec, avec un quotidien un petit peu plus sain physiquement.
À quoi dites-vous non désormais ? Ou à quoi êtes-vous fière d'avoir dit non ?
Dans le travail, ça m'arrive aujourd'hui de dire non à certains partenaires. Voilà, quand ça ne correspond pas à un certain nombre d'éthiques ou de valeurs, je dis non et j'en suis plutôt fière. J'avais dit non, par exemple, je ne voulais pas aller sur le plateau d'Hanouna. Voilà, ça je trouve c'est cool.
Votre pire moment de solitude professionnelle ?
C'est les moments RH. Quand on est patron ou patronne, en fait, c'est dur, hein, les ressources humaines. Hein.
Très dur.
Oh là là, et c'est dur de partager. Vous ne savez pas avec qui partager, comment. J'ai eu des gros moments de solitude, de me dire qu'est-ce que je fais avec cette personne, comment je lui parle, comment je réussis à... Ça me tracasse beaucoup. Et ce n'est pas facile. Ça, je pense, c'est vraiment le côté de mon travail qui est le moins agréable.
D'où l'intérêt des réseaux d'entrepreneurs.
Oui, exactement.
Que souhaiteriez-vous absolument faire dans votre vie ?
J'aimerais bien avoir une cabane dans les bois.
Vivre ?
Non, juste y aller, quoi. Je veux dire, là, en ce moment, c'est ça. Je me dis, en fait, j'aimerais tellement me retrouver dans une petite cabane dans les bois. Non, pour les week-ends. Petite cabane dans les bois. Je pense le truc de, déjà, lutte contre le réchauffement climatique. Mais en fait, il y a un endroit avec de la chlorophylle, de l'air, un peu de fraîcheur et dans une cabane. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas une grande ambition.
Si vous étiez ou si vous aviez un pouvoir magique ?
Je ferais en sorte qu'il n'y ait plus de viol sur la planète.
La musique qui vous donne de l'énergie ?
Alors moi, je suis très rock. J'adore le rock. Ça, c'est depuis mon adolescence. J'étais un peu... j'adorais les rock, les concerts de rock, les rockers, tout ça. J'adorais.
Donc une musique ?
Une musique, y en a plein. Un groupe de musique ?
Une chanson, un truc ?
J'aime pas, j'aime bien U2, j'aime bien Muse, j'aime bien plein de groupes de rock divers et variés qui m'ont fait palpiter quand j'étais jeune et ça continue de me faire... Ouais, j'aime bien le rock, ouais.
Une passion.
J'en ai plein, en fait. À la fois, j'en ai plein et j'en ai pas. Je change un peu de temps en temps. Ouais, une passion. Non, difficile, une passion. Je sais pas, j'en ai... Je suis passionnée, en fait. Donc, en fait, j'ai plein de passions.
Une passion qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas parlé.
Une passion inavouable.
Pas forcément inavouable, mais étonnante, on peut dire.
J'aime bien la poésie, j'aime bien marcher. Comme je disais, j'aime bien les cabanes, j'aime bien... je me suis mise à la plongée cet été. Et à nouveau, je pense que c'est ce côté se retrouver seule, isolée quelque part et que personne ne puisse me parler. Ouais, c'est le petit moment de suspendu comme ça quand on est en plongée, on est en lévitation suspendue et on admire la nature. Alors ça, c'est le kiff.
Le bonheur, je confirme. Et donc, Yva fait mouche avec sa poésie, si vous adorez la poésie. Ouais. Votre prochaine action pour plus d'égalité ?
Et ben, le rapport qu'on vient de sortir, le 25 septembre, qui, je l'espère, va permettre de montrer à quel point il y a encore beaucoup de chemin à faire et à quel point c'est possible de mettre un terme aux violences faites aux femmes si on s'en donne les moyens. Et puis, on sort aussi une campagne mi-novembre pour sensibiliser la population à ce sujet. Et j'espère que vous allez aimer cette campagne et que vous allez du coup faire des dons à la Fondation des Femmes. Fondationdesfemmes.org, c'est très simple, il suffit juste d'avoir sa carte bleue. Et le process est très fluide.
Votre mot-clé, celui qui vous guide, ce sera le mot de la fin.
Non, je ne veux pas redire sérendipité, je dirais plutôt, on n'en a pas un tout petit peu parlé, mais j'aime bien le concept de sororité, j'aime bien cette force d'une solidarité entre femmes, mais qui n'est pas que entre femmes. D'ailleurs, moi, je pense que la sororité, il y a plein d'hommes aussi qui peuvent l'expérimenter avec nous. Et c'est, en fait... Vraiment, moi, ça me donne une telle joie au quotidien d'être dans un gang de meufs et de serrer les coudes. Et ce qu'on arrive à faire, c'est incroyable. Vraiment, les femmes ont une... Enfin, les femmes, des hommes aussi. Mais je veux dire, moi, ce que j'expérimente là aujourd'hui, c'est plutôt les femmes. Et c'est une force dans le collectif. Et ça demande effectivement de sortir un petit peu de soi. Mais il faut qu'on... Je pense que ça doit être aussi pour nous, nos sociétés, vraiment renouer avec ça. En plus, c'est ça qui nous... Enfin, moi, qui me fait que je me sens vivante, c'est quand je suis dans un mouvement collectif.
Je valide le mot sororité. Merci Anne-Cécile Mayfair.
Merci.
Ce que je retiens de notre échange, c'est effectivement la sérendipité, la sororité. Le fait qu'il faut juste imaginer son chemin, commencer à marcher dessus. Et puis, les aides arrivent, quelles qu'elles soient, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut persévérer, qu'il faut utiliser ses atouts pour faire avancer ceux auxquels on croit.
Apprendre de ses erreurs aussi.
Apprendre de ses erreurs, s'accorder des temps de pause, ça ne fait jamais de mal. Yves.
Et se reconnecter à la nature.
Ouais.
Et qu'ensemble, on est capable de tout.
Ah ouais, c'est incroyable ce qu'on peut faire.
Si on veut vous suivre, rendez-vous tous les vendredis à 7h20 sur France Inter pour votre chronique en toute subjectivité. J'en profite également pour citer le titre de votre dernier livre qui est paru en 2017, « Tu seras une femme, guide féministe pour ma nièce et ses amis ». Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci à Yves Villagines, Ariane Godefroy, Camille Codor, Marie Jaworski, Elisa Grenet. Merci aussi à Sandrine Daoz, Aya Cassel et Les Échos pour l'organisation. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast « Elles ont osé » avec Les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast et à la sérendipité. « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. »
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.